Mémoire complet et authentique de Joseph Fouché, duc d'Otrante, ministre de la police générale. Avertissement de l'auteur. Ce n'est ni par esprit de parti, ni par haine, ni par vengeance que j'ai écrit ces mémoires, et encore moins pour offrir un aliment à la malignité et au scandale. Tout ce qui doit être honoré dans l'opinion des hommes, je le respecte. Qu'on me lise et l'on appréciera mes intentions, mes vues, mes sentiments et par quelle politique j'ai été guidé dans l'exercice des plus hauts emplois. Qu'on me lise et on verra si, dans les conseils de la République et de Napoléon, je n'ai pas été constant dans le parti d'opposition aux mesures outrées du gouvernement. Qu'on me lise et on verra si je n'ai pas montré quelque courage dans mes avertissements et dans mes remontrances. Enfin, en me lisant, on se convaincra que tout ce que j'ai écrit, je me le devais à moi-même. Le seul moyen de rendre ces mémoires utiles à ma réputation et à l'histoire de cette grande époque, c'était de ne les appuyer que sur la vérité pure et simple. J'y étais porté par caractère et par conviction, ma position d'ailleurs m'en faisait une loi. N'était-il pas naturel que je trompasse ainsi l'ennui d'un pouvoir déchu? Sous toutes ses formes, la Révolution m'avait accoutumé d'ailleurs à une extrême activité d'esprit et de mémoire. Irritée encore par la solitude, cette activité avait besoin de s'exhaler encore. Or, c'est avec une sorte d'abandon et de délice que j'ai écrit cette première partie de mes souvenirs. Je l'ai retouché, il est vrai, mais je n'y ai rien changé quant au fond, dans les angoisses même de ma dernière infortune. Quel plus grand malheur en effet que d'errer dans le bannissement hors de son pays. France, qui me fut si chère, je ne te verrai plus. Hélas que je paie cher le pouvoir et les grandeurs. Ceux à qui je tendis la main ne me l'attendront pas, je le vois, on voudrait me condamner même au silence de l'avenir. Vain espoir, je saurais tromper l'attente de ceux qui épient la dépouille de mes souvenirs et de mes révélations, de ceux qui se disposent à tendre des pièges à mes enfants. Si mes enfants sont trop jeunes pour se défier de tous les pièges, je les en préserverai en cherchant, hors de la foule de tant d'ingrats, un ami prudent et fidèle. L'espèce humaine n'est point encore assez dépravée pour que mes recherches soient vaines. Que dis-je? Cet autre moi-même, je l'ai trouvé. C'est à sa fidélité et à sa discrétion que je confie le dépôt de ses mémoires. Je le laisse juge, après ma mort, de l'opportunité de leur publication. Il sait ce que je pense à cet égard, et il ne les remettra, j'en suis sûr, qu'à un éditeur honnête homme, choisi hors des coteries de la capitale, hors des intrigues et des spéculations honteuses. Voici sans doute la seule et meilleure garantie qu'ils resteront à l'abri des interpolations et des suppressions des ennemis de toute vérité et de toute franchise. C'est dans le même esprit de sincérité que j'en prépare une seconde partie. Je ne dissimule pas qu'il s'agit de traiter une période plus délicate et plus épineuse à cause des temps, des personnages et des calamités qu'elle embrasse. Mais la vérité, dite sans passion et sans amertume, ne perd aucun de ses droits. Joseph Fouché. Première partie, chapitre 1. L'homme qui, dans des temps de troubles et de révolutions, n'a été redevable des honneurs et du pouvoir dont il a été investi, de sa haute fortune enfin, qu'à sa prudence et à sa capacité, qui, d'abord élu représentant de la nation, a été au retour de l'ordre ambassadeur, trois fois ministre, sénateur, duc et l'un des principaux régulateurs de l'État, cet homme se ravalerait si, pour repousser des écrits calomnieux, il descendait à l'apologie ou à des réfutations captieuses. Il lui faut d'autres armes. Eh bien, cet homme, c'est moi. Élevé par la Révolution, je ne suis tombé des grandeurs que par une révolution contraire que j'avais pressentie et que j'aurais pu conjurer, mais contre laquelle je me trouvais désarmé au moment de la crise. La rechute m'a exposé sans défense aux clameurs des méchants et aux outrages des ingrats. Moi qui longtemps revêtu d'un pouvoir occulte et terrible, ne m'en servis jamais que pour calmer les passions, dissoudre les partis et prévenir les complots, moi qui m'efforçais sans cesse de modérer, d'adoucir le pouvoir, de concilier ou de fondre ensemble les éléments contraires et les intérêts opposés qui divisaient la France. Nul n'oserait nier que telle a été ma conduite tant que j'exerçais quelque influence dans l'administration et dans les conseils. Qu'ai-je à opposer dans la terre d'exil à de forcenés antagonistes, à cette tourbe qui me déchire après avoir mendié à mes pieds? Leur opposerai-je de froides déclamations, des phrases académiques et alambiquées? Non, certes. Je veux les confondre par des faits et des preuves, par l'exposé véridique de mes travaux, de mes pensées comme ministre et comme homme d'État, par le récit fidèle des événements politiques, des incidents bizarres au milieu desquels j'ai tenu le gouvernail dans des temps de violence et de tempête. Voilà le but que je me propose. Je ne crois pas que la vérité puisse en rien me nuire, et cela serait encore que je la dirais. Le temps de la produire est venu, je la dirai, coûte que coûte, alors que la tombe recélant ma dépouille mortelle, mon nom sera légué au jugement de l'histoire. Mais il est juste que je puisse comparaître à son tribunal, c'est écrit à la main. Et d'abord, qu'on ne me rende personnellement responsable ni de la révolution, ni de ses écarts, ni même de sa dictature. Je n'étais rien, je n'avais aucune autorité quand ces premières secousses, bouleversant la France, firent trembler le sol de l'Europe. Qu'est-ce d'ailleurs que la révolution ? Il est de fait qu'avant 1789, les présages de la destruction des empires inquiétaient la monarchie. Les empires ne sont point exempts de cette loi commune qui assujettit tout sur la terre au changement et à la décomposition. En fut-il jamais dont la durée historique ait dépassé un certain nombre de siècles? En fixant à 1200 ou 1300 ans l'âge des États, c'est aller à la dernière borne de leur longévité. Nous en conclurons qu'une monarchie qui avait vu 13 siècles sans avoir reçu aucune atteinte mortelle ne devait pas être loin d'une catastrophe. Que sera-ce si, renaissant de ses cendres et recomposée à neuf, elle a tenu l'Europe sous le joug et dans la terreur de ses armes? Mais alors, si la puissance lui échappe, de nouveau on la verra languir et périr. Ne recherchons pas quelles seraient les nouvelles destinées de transformation. La configuration géographique de la France lui assigne toujours un rôle dans les siècles à venir. La Gaule conquise par les maîtres du monde ne fut assujettie que 300 ans. D'autres envahisseurs aujourd'hui forgent dans le nord les fers de l'Europe. La Révolution avait élevé la digue qui les eut arrêtés, on la démolit pièce à pièce. Elle sera détruite, mais relevée, car le siècle est bien fort, il entraîne les hommes, les partis et les gouvernements. Vous qui vous déchaînez contre les prodiges de la Révolution, vous qui l'avez tournée sans oser la regarder en face, vous l'avez subie et peut-être la subirez-vous encore. Qui la provoqua et d'où l'avons-nous vue surgir ? Du salon des grands, du cabinet des ministres, elle a été appelée, provoquée par les parlements et les gens du roi, par nos jeunes colonels, par les petites maîtresses de la cour, par les gens de lettres pensionnés dont les duchesses s'érigeaient en protectrices et se faisaient les échos. J'ai vu la nation rougir de la dépravation des hautes classes, de la licence du clergé, des stupides aberrations des ministres et de l'image de la dissolution révoltante de la nouvelle Babylone. N'est-ce pas ceux qu'on regardait comme l'élite de la France qui, pendant 40 ans, érigèrent le culte de Voltaire et de Rousseau? N'est-ce pas dans les hautes classes que prit faveur cette manie d'indépendance démocratique transplantée des États-Unis sur le sol de la France? On rêvait la République et la corruption était au comble dans la monarchie. L'exemple même d'un monarque rigide dans ses mœurs ne put arrêter le torrent. Au milieu de cette décomposition des classes supérieures, la nation grandissait et mûrissait. À force de s'entendre dire qu'elle devait s'émanciper, elle finit par le croire. L'histoire est là pour attester que la nation fut étrangère aux manœuvres qui préparèrent le bouleversement. On eût pu la faire cheminer avec le siècle. Le roi, les esprits sages le voulaient. Mais la corruption et l'avarice des grands, les fautes de la magistrature et de la cour, les bévues du ministère creusèrent l'abîme. Il était d'ailleurs si facile aux meneurs de mettre en émoi une nation pétulante, inflammable et qui sort des bornes à la moindre impulsion. Qui mit le feu à la mine? Était-il du tiers-état, l'archevêque de Sens, le Genevois Necker, Mirabeau, Lafayette d'Orléans, Adrien du Port, Chauderlot-Laclos, les Stahl, les Larochefoucauld, les Beauvau, les Montmorency, les Noailles, les Lamette, les Tours du Pin, les Lefranc de Pompignan et tant d'autres moteurs des triomphes de 1789 sur l'autorité royale? Le club breton eût fait long feu sans les conciliabules du Palais-Royal et de Montrouge. Il n'y aurait pas eu de 14 juillet si, le 12, les généraux et les troupes du roi eussent fait leur devoir. Besenval était une créature de la reine, et Besenval, au moment décisif, en dépit des ordres formels du roi, battit en retraite au lieu d'avancer sur les émeutes. Le maréchal de Beaugris lui-même fut paralysé par son état-major. Ces faits ne sauraient être contredits. On sait par quel prestige fut soulevée la multitude. La souveraineté du peuple fut proclamée par la défection de l'armée et de la cour. Est-il surprenant que les factieux et les meneurs aient pu s'emparer de la révolution? L'entraînement des innovations, l'exaltation des idées firent le reste. Un prince avait mis tout en feu, il pouvait tout maîtriser par un changement dynastique. Sa lâcheté fit errer la révolution sans but. Au milieu de cette tourmente, les cœurs généreux, les âmes ardentes et quelques esprits forts crurent de bonne foi qu'on arriverait à une régénération sociale. Ils y travaillèrent, se fiant aux protestations et aux serments. Ce fut dans ces dispositions que nous, hommes obscurs du tiers, hommes de la province, furent entraînés et séduits par le rêve de la liberté, par l'enivrante fiction de la restauration de l'État. Nous poursuivions une chimère avec la fièvre du bien public. Nous n'avions alors aucune arrière-pensée, point d'ambition, aucune vue d'intérêt sordide. Mais bientôt, les résistances allumant les passions, l'esprit de parti, fit naître les animosités implacables. Tout fut poussé à l'extrême. Il n'y eut plus d'autre mobile que celui de la multitude. Par la même raison que Louis XIV avait dit « l'État, c'est moi », le peuple dit « le souverain, c'est moi », la nation, c'est l'État, et la nation s'avança toute seule. Et ici, remarquons d'abord un fait qui servira de clé aux événements qui vont suivre, car ces événements tiennent du prodige. Les dissidents royalistes, les contre-révolutionnaires, faute d'éléments disponibles de guerre civile, se voyant déboutés d'en avoir les honneurs, eurent recours à l'émigration, ressource des faibles. Ne trouvant aucun appui au-dedans, ils coururent le chercher au-dehors. À l'exemple de ce qu'avaient fait toutes les nations en pareil cas, la nation voulut que les propriétés des émigrés lui servissent de gage sous le motif qu'il s'était armé contre elle et voulait armer l'Europe. Mais comment toucher au droit de propriété, fondement de la monarchie, sans saper ses propres bases? Du séquestre, on en vint à la spoliation, dès lors tout s'écroula, car la mutation des propriétés est synonyme de la subversion de l'ordre établi. Ce n'est pas moi qui ai dit « il faut que les propriétés changent ». Ce mot était plus agréable que tout ce qu'avaient pu dire les Gracques, et il ne se trouva point un Scipion Nasica. Dès lors, la révolution ne fut qu'un bouleversement. Il lui manquait la terrible sanction de la guerre, les cabinets de l'Europe lui ouvrirent eux-mêmes le temple de Janus. Dès le début de cette grande lutte, la révolution, toute jeune, toute vivace, triompha de la vieille politique d'une coalition pitoyable, des opérations niaises de ses armées et de leurs désaccords. Autre fait qu'il faut consigner aussi pour en tirer une conséquence grave, la première coalition fut repoussée, battue, humiliée. Supposons qu'elle eût triomphé de la Confédération patriotique de la France, que la pointe des Prussiens en Champagne n'eût rencontré aucun obstacle sérieux jusqu'à la capitale et que la Révolution eût été désorganisée dans son propre foyer. Admettons cette hypothèse, et la France, sans aucun doute, eût subi le sort de la Pologne par une première mutilation, par l'abaissement de son monarque. Car tel était alors le thème politique des cabinets et l'esprit de leur diplomatie copartageante. Le progrès des Lumières n'avait point encore amené la découverte de la combinaison européenne de l'occupation militaire avec subside. En préservant la France, les patriotes de 1792 l'ont arrachée non seulement aux griffes de l'étranger, mais encore ils ont travaillé, quoique sans intention, pour l'avenir de la monarchie. Voilà qui est incontestable. On se récrie contre les écarts de cette révolution arrosée de sang. Pouvait-elle, entourée d'ennemis, exposée à l'invasion, rester calme et modérée? Beaucoup se sont trompés, il y a peu de coupables. Ne cherchons la cause du 10 août que dans la marche en avant des Autrichiens et des Prussiens. Qu'ils aient marché trop tard, peu importe, on ne touche point encore au suicide de la France. Oui, la Révolution fut violente dans sa marche, cruelle même. Tout cela est historiquement connu et je ne m'y arrêterai pas. Tel n'est d'ailleurs pas l'objet de cet écrit. C'est de moi que je veux parler, ou plutôt des événements auxquels j'ai participé comme ministre. Mais il me fallait entrer en matière et caractériser l'époque. Toutefois, que le vulgaire des lecteurs n'aille pas s'imaginer que je retracerai fastidieusement ma vie d'homme privé, de citoyen obscur. Qu'importe d'ailleurs mes premiers pas dans la carrière. Ces minuties peuvent intéresser de faméliques faiseurs de biographies contemporaines et les badauds qui les lisent, mais ils ne font rien à l'histoire et c'est jusqu'à elles que je prétends m'élever. Peu importe que je sois le fils d'un armateur et qu'on m'ait d'ailleurs destiné d'abord à la navigation, ma famille était honorable. Peu importe que j'ai été élevé chez les oratoriens, que j'ai été oratorien moi-même, que je me sois voué à l'enseignement, que la Révolution m'ait trouvé préfet du collège de Nantes, il en résulte au moins que je n'étais ni un ignorant, ni un sot. Il est d'ailleurs de toute fausseté que j'ai jamais été prêtre ni engagé dans les ordres. J'en fais la remarque pour qu'on voie qu'il m'est bien permis d'être un esprit fort, un philosophe, sans renier ma profession première. Ce qu'il y a de certain, c'est que je quittais l'oratoire avant d'exercer aucune fonction publique et que, sous l'égide des lois, je me mariais à Nantes dans l'intention d'exercer la profession d'avocat, plus analogue à mes inclinations et à l'état de la société. J'étais d'ailleurs moralement ce qu'était le siècle, avec l'avantage de n'avoir été tel ni par imitation, ni par engouement, mais par méditation et par caractère. Avec de pareils principes, comment ne m'honorais-je pas d'avoir été nommé par mes concitoyens, sans captation et sans intrigue, représentant du peuple à la Convention nationale? C'est dans ce défilé que m'attendent mes transfuges d'antichambre. Pas d'exagération, pas d'excès, pas de crime, soit en mission, soit à la tribune, dont il n'affuble ma responsabilité historique, prenant les paroles pour des actions, les discours obligés pour des principes, ne songeant ni au temps, ni au lieu, ni aux catastrophes, ne tenant compte ni du délire universel, ni de la fièvre républicaine dont 20 millions de Français éprouvaient le redoublement. Je m'ensevelis d'abord dans le comité d'instruction publique où je me liais à Condorcet et par lui avec Vergniaud. Ici, je dois retracer une circonstance qui se rapporte à l'une des crises les plus sérieuses de ma vie. Par un hasard bizarre, j'avais connu Maximilien Robespierre à l'époque où je professais la philosophie dans la ville d'Arras. Je lui avais même prêté de l'argent pour venir s'établir à Paris lorsqu'il fut nommé député de l'Assemblée nationale. Quand nous nous retrouvâmes à la Convention, nous nous vîmes d'abord assez souvent, mais la diversité de nos opinions et peut-être plus encore de nos caractères ne tarda pas à nous diviser. Un jour, à l'issue d'un dîner qui avait eu lieu chez moi, Robespierre se mit à déclamer avec violence contre les Girondins, apostrophant Vergniaud qui était présent. J'aimais Vergniaud, grand orateur et homme simple. Je m'approchai de lui et, m'avançant vers Robespierre, Avec une pareille violence, lui dis-je, vous gagnerez sûrement les passions, mais vous n'aurez jamais ni estime ni confiance. Robespierre, piqué, se retira, et l'on verra bientôt jusqu'où cet homme atrabilaire poussa contre moi l'animosité. Pourtant, je ne partageais point le système politique du parti de la Gironde dont Vergniaud passait pour être le chef. Il me semblait que ce système tendait à disjoindre la France en l'ameutant par zone et par province contre Paris. J'apercevais là un grand danger, ne voyant de salut pour l'État que dans l'unité et l'indivisibilité du corps politique. Voilà ce qui m'entraîna dans un parti dont je détestais à fond les excès et dont les violences marquèrent les progrès de la Révolution. Que d'horreur dans l'ordre de la morale et de la justice! Mais nous ne voguions pas dans des mers calmes. Nous étions en pleine révolution, sans gouvernail, sans gouvernement, dominés par une assemblée unique, sorte de dictature monstrueuse, enfantée par la subversion, et qui offrait tour à tour l'image de l'anarchie d'Athènes et du despotisme ottoman. C'est donc ici un procès purement politique entre la révolution et la contre-révolution. Voudrait-on le juger selon la jurisprudence qui règle les décisions des tribunaux criminels ou de police correctionnelle? La Convention, malgré ses déchirements, ses excès, ses décrets forcenés, ou peut-être même à cause de ses décrets, a sauvé la patrie au-delà de ses limites intégrales. C'est un fait incontestable, et sous ce rapport, je ne récuse point ma participation à ses travaux. Chacun de ses membres, accusé devant le tribunal de l'histoire, peut se renfermer dans les limites de la défense de Scipion et répéter avec ce grand homme « J'ai sauvé la République, montons au Capitole, en rendre grâce aux dieux ». Il est pourtant un vote qui reste injustifiable, j'avouerai même sans honte comme sans faiblesse qu'il me fait connaître le remords. Mais j'en prends à témoin le dieu de la vérité, c'était bien moins le monarque au fond que j'entendis frapper, il était bon et juste, que le diadème, alors incompatible avec le nouvel ordre des choses. Et puis, le dirais-je, car les révélations excluent les réticences, il me paraissait alors, comme à tant d'autres, que nous ne pourrions inspirer assez d'énergie à la représentation et à la masse du peuple pour surmonter la crise, qu'en outrant toutes les mesures, qu'en dépassant toutes les bornes, qu'en compromettant toutes les sommités révolutionnaires. Telle fut la raison d'État qui nous parut exiger cet effrayant sacrifice. En politique, l'atrocité aurait-elle aussi parfois son point de vue salutaire? L'univers aujourd'hui ne nous en demanderait pas compte si l'arbre de la liberté, poussant des racines profondes, eût résisté à la hache de ceux mêmes qu'il avait élevé de leurs mains. Que Brutus ait été plus heureux dans la construction du bel édifice qu'il arrosa du sang de ses fils, comme penseur, je le conçois. Il lui fut plus facile de faire passer les faisceaux de la monarchie dans les mains d'une aristocratie déjà constituée. Les représentants de 1793, en immolant le représentant de la royauté, le père de la monarchie, pour élever une république, n'eurent pas le choix dans les moyens de reconstruction. Le niveau de l'égalité était déjà si violemment établi dans la nation qu'il fallut léguer l'autorité à une démocratie flottante. Elle ne sut travailler que sur un sable mouvant. À présent que je me suis condamné comme juge et parti, au moins qu'il me soit permis de faire valoir dans l'exercice de mes fonctions conventionnelles quelques circonstances atténuantes. Envoyé en mission dans les départements, forcé de me rapprocher du langage de l'époque et de payer un tribut à la fatalité des circonstances, je me vis contraint de mettre en exécution la loi contre les suspects. Elle ordonnait l'emprisonnement en masse des prêtres et des nobles. Voici ce que j'écrivis, voici ce que j'osais publier dans une proclamation émanée de moi le 25 août 1793. La loi veut que les hommes suspects soient éloignés du commerce social. Cette loi est commandée par l'intérêt de l'État, mais prendre pour base de votre opinion des dénonciations vagues provoquées par des passions viles, ce serait favoriser un arbitraire qui répugne autant à mon cœur qu'à l'équité. Il ne faut pas que le glaive se promène au hasard. La loi commande de sévères punitions et non des proscriptions aussi immorales que barbares. Il y avait alors quelque courage à mitiger autant qu'il pouvait dépendre de soi la rigueur des décrets conventionnels. Je ne fus pas si heureux dans mes missions en commissariat collectif par la raison que la décision des affaires ne pouvait plus appartenir à ma seule volonté. Mais on trouvera bien moins dans le cours de mes missions d'actions blâmables à relever que de ces phrases banales dans le langage du temps et qui, dans des temps plus calmes, inspirent encore une sorte d'effroi. Ce langage d'ailleurs était, pour ainsi dire, officiel et consacré. Qu'on ne s'abuse pas non plus sur ma position à cette époque. J'étais le délégué d'une assemblée frénétique et j'éprouvais que j'avais éludé ou adouci plusieurs de ces mesures acerbes. Mais du reste, ces prétendus proconsulats réduisaient le député missionnaire à n'être que l'homme-machine, le commissaire ambulant des comités de salut public et de sûreté générale. Jamais je n'ai été membre de ces comités de gouvernement. Or, je n'ai point tenu, pendant la terreur, le timon du pouvoir. Au contraire, la terreur a réagi sur moi, comme on le verra bientôt. Par là, on peut juger combien ma responsabilité se trouve restreinte. Mais dévidons le fil des événements, il nous conduira, comme le fil d'Ariane, hors du labyrinthe, et nous pourrons alors atteindre le but de ces mémoires dont la sphère va s'agrandir.